Sélection de lettres de la princesse Palatine, tirée du livre Correspondance complète de Madame, duchesse d'Orléans, née princesse Palatine, mère du régent. Traduction par Monsieur Brunet. Versailles, 30 mars 1704. Je n'ai pu faire la bonne œuvre d'observer le jeûne. Je ne puis supporter le poisson. Et je suis bien persuadée que l'on peut faire de meilleures œuvres que de gâter son estomac en mangeant trop de poisson. Comme j'ai l'honneur de connaître le roi de Pologne, je suis peinée pour lui. Mais il faut convenir qu'il a fait une grande folie en se faisant roi de Pologne. À parler franchement, il me semble qu'en Allemagne, on se conduit maintenant d'une façon si extravagante qu'il semble que les Allemands ne sont plus les Allemands. D'après ce que j'en apprends, je ne m'y reconnais plus. Et il faut que tout soit changé d'une manière inouïe. Versailles, 29 avril 1704. Vous me faites rire avec votre répugnance à insérer dans vos lettres des mots français. C'est du reste une très sotte habitude que des gens ont prise, comme si l'allemand ne suffisait pas pour exprimer toutes les idées. Je crains qu'à la longue, l'allemand ne se corrompe au point de ne plus être une langue du tout. Êtes-vous assez simple pour croire que les catholiques n'ont aucun des vrais fondements du christianisme ? Croyez-moi, le but du christianisme est le même chez tous les chrétiens. Les différences qu'on voit ne sont que des chansons de prêtres qui ne concernent pas les honnêtes gens. Mais ce qui nous concerne est de vivre bien et chrétiennement, d'être miséricordieux et de nous appliquer à la charité et à la vertu. Messieurs les prédicateurs devraient s'appliquer à recommander cela aux chrétiens et ne pas se quereller sur une foule de points, comme si on les comprenait. Mais cela diminuerait beaucoup l'autorité de ces messieurs. Aussi ne s'occupent-ils que de ces disputes, et non de ce qui est le plus nécessaire et le plus essentiel. L'ivrognerie n'est que trop à la mode parmi les jeunes femmes, mais on est ici dans une complète satisfaction. On ne pense qu'à amuser la duchesse de Bourgogne à force de collations, de présents, de feux d'artifice et d'autres réjouissances. J'ai vu récemment quelques Allemands, entre autres un comte de Vide, qui a le teint aussi blanc qu'une dame et qui servait dans les troupes du Palatinat. Il a été pris auprès de Spire, ainsi qu'un Attenbach de Cassel, lequel est un très brave homme et qui paraît de la bonne et digne souche allemande, telle qu'elle était de mon temps. Marly, 28 janvier 1704. Les cavaliers boivent aussi volontiers avec la femme de chambre qu'avec sa dame lorsque celle-ci est coquette. Mais, à dire vrai, ce n'est pas tant ces filles qui boivent ici jusqu'à l'ivrognerie que des personnes de bien plus grande qualité. Je n'ai jamais aimé beaucoup les bals masqués, et il me semble que Madame de Belmont est d'un âge à y renoncer. J'ai entendu dire que mon oncle Rupert l'avait séduite en lui promettant de l'épouser. Mais ce n'est pas exact. Il la trompa en faisant célébrer un prétendu mariage par un laquais qui s'était déguisé en prêtre. C'est ce que des Anglais m'ont assuré. Elle était alors fort jeune. Marly, 19 février 1705. Ce n'est que mercredi dernier que j'ai reçu votre lettre du 6 de ce mois. C'est une misère que la façon dont va la poste aujourd'hui. Du temps de M. Louvois, on lisait les lettres aussi bien qu'à présent, mais on les remettait du moins en temps convenable. Maintenant que ce crapaud du Torcy a la direction de la poste, les lettres se font attendre un temps infini. Et jamais de ma vie, je n'ai été plus impatiente de recevoir des nouvelles de Hanovre, car je suis fort inquiète au sujet de ma tante. Versailles, 5 mars 1705. Je n'ai jamais de ma vie, si ce n'est à la mort de monsieur, été plus troublée et plus désolée qu'en apprenant la mort de cette belle reine, enlevée si vite, et dont je déplore la perte de toute mon âme. Je ne puis comprendre qu'on n'ait pas aussitôt emmené ma tante. Rester dans la maison où est le corps mort, c'est quelque chose d'affreux et qui renouvelle la douleur d'heure en heure. Je suis restée plus de 10 nuits sans pouvoir dormir, tant j'étais inquiète au sujet de ma tante. Il vaut mieux qu'elle ne se contraigne pas pour retenir ses larmes, ce qui est fort malsain, mais qu'elle les laisse couler. Si j'avais eu le choix, j'aurais voulu mourir avant cette bonne reine qui aurait pu consoler ma tante de ma perte. Il est bien vrai que de pareils événements font faire bien des réflexions morales. Elle me rappelle le cantique luthérien au sujet de la mort que j'ai souvent chanté lorsque j'étais à Hanovre. Marly, 18 avril 1705. Je ne manque jamais de lire la Bible. Hier, je lus les psaumes 54 et 55, les chapitres 14 et 15 de saint Matthieu, et 3 et 4 de saint Jean. Ce matin, je n'ai pu rien lire, car nous avons été à la chasse du cerf. Je n'ai nullement approuvé qu'on maltraitât ici les réformés, mais on voit bien qu'il ne faut s'en prendre qu'à la politique. Ce sont d'ailleurs des sujets qu'on peut traiter en tête-à-tête, mais qu'il ne faut pas aborder par la voie de la poste. Je suivrai donc votre bon exemple et je parlerai d'autre chose. Le jubilé n'a pas encore converti tous les abbés. Il s'en trouve encore bon nombre à Paris qui font la cour aux dames. Je n'ai jamais pu comprendre de ma vie qu'on pût être éprise d'un ecclésiastique. Ni vous, ni votre sœur n'êtes coquette, et je puis bien dire, je reconnais mon sang. Ce qui empêche ici de contracter des amitiés sincères, c'est qu'on est sûr de ne pas trouver de réciprocité. Il n'y a qu'égoïsme et duplicité. Il faut donc vivre, ou bien dans une triste et ennuyeuse solitude, ou se résigner à beaucoup de soucis. À ce que je crois aussi, vous partagez l'opinion qui est exprimée dans l'opéra d'Alceste. L'hymen détruit la tendresse, il rend l'amour sans attrait. Voulez-vous vous aimer sans cesse, amant ? N'épousez jamais. Et un cavalier qui est mort l'an passé disait « Quel amour qu'on puisse avoir, dès qu'on entre au lit d'hymen, l'amour sort du cœur. » Versailles, 18 juillet 1705. On ne m'a jamais grondé pour dormir à l'église. Je m'y suis donc si fort habituée que je ne puis m'en défendre. Le matin, je n'y dors pas, mais le soir, après dîner, il m'est impossible d'y rester éveillée. Je ne dors pas à la comédie, mais très souvent à l'opéra. Je crois que le diable s'occupe assez peu si je dors ou non à l'église. Le sommeil n'est pas un péché, mais le résultat de la faiblesse humaine. Versailles, 6 août 1705. Beaucoup de Françaises, surtout celles qui ont été coquettes et débauchées, aussitôt qu'elles sont devenues vieilles et qu'elles ne peuvent plus avoir d'amants, se font dévotes, ou du moins se donnent pour telles. Mais elles sont ordinairement fort dangereuses, car elles sont envieuses et ne peuvent souffrir personne. novembre 1705. Ne croyez pas que ceux qui parlent tant de la dévotion et de la crainte de Dieu soient les plus dévots. Ils n'agissent souvent ainsi que pour avoir comme un manteau qui leur sert à cacher beaucoup d'iniquités. La vraie dévotion est une grâce de Dieu qu'il ne donne pas à tous les hommes. Elle consiste, je crois, dans l'amour de Dieu et dans la charité. Versailles, 17 décembre 1705. Les prédicateurs sont ordinairement assez peu amusants. Il me semble qu'on perd le respect pour les ecclésiastiques lorsqu'on les voit si souvent et de si près, car il est sûr que ce sont des hommes comme les autres. Le malade imaginaire n'est pas de celle des comédies de Molière que j'aime le mieux. Tartuffe me plaît davantage. Il arrive fort souvent que des femmes enceintes ne peuvent manger de la viande sans se trouver incommodées. J'ai été dans ce cas. On mange volontiers ce dont on a pris l'habitude dans sa jeunesse. Voici 34 ans que je suis en France et je n'ai pas encore pu m'habituer à la cuisine de ce pays. Je ne mange aucun ragoût. Versailles, 25 février 1706. Le café n'est pas aussi nécessaire aux ministres protestants qu'aux prêtres catholiques, qui ne peuvent se marier, car il rend chaste. Versailles, 4 mars 1706. On ne danse plus en Allemagne comme autrefois, et on n'y rit plus. Je ne trouve pas qu'il y ait sottise à s'égayer, car la joie est très bonne pour la santé. Ce qui est sot, c'est d'être triste, car cela rend malade et ne sert à rien. Je n'aime pas du tout les danses françaises. Un éternel menuet me semble insupportable. Versailles, 17 mars 1706. Je sais bien pourquoi mes lettres vous parviennent irrégulièrement. C'est la faute du directeur des postes. Il veut les lire toutes afin d'en faire des extraits qu'il montre au roi de la façon qui lui convient. Et comme il ne sait pas beaucoup l'allemand, il faut qu'il les fasse traduire. Je ne lui sais nullement gré de son attention. Versailles, 11 avril 1706. Vous êtes trop dévote pour aller le dimanche au spectacle, mais je crois qu'une visite est plus dangereuse que le spectacle, car il est difficile dans une visite de ne pas médire du prochain, ce qui est un plus grand péché que d'aller à la comédie. Je n'approuverais pas qu'on allât le dimanche au théâtre au lieu de l'église, mais après avoir rempli ses devoirs envers Dieu, je crois que le spectacle est moins dangereux pour une conscience scrupuleuse que la conversation. Versailles, 3 juin 1706. On fait bien à Hanovre de s'amuser. Cela est salutaire et prolonge la vie. Mais ici, la mode en est bien passée. L'exercice fait plus de bien que l'emploi des remèdes, et je vois que ceux qui se droguent souvent ne se portent pas mieux que ceux qui n'ont point recours aux remèdes. Aussi, je n'en use point. Je sais ce qu'il faut à ma santé, et je laisse les docteurs parler tant qu'ils veulent. En Lorraine, on entretient encore un bouffon. Ici, on est devenu trop grave, et il n'y a plus qu'une conduite sans dessus-dessous et sans mesure, ou une gravité roide. Versailles, 12 août 1706. Ma tante, l'abbesse de Maubuisson, est depuis le mois d'avril dans sa 85e année. Elle a quelque peine à parler et à marcher, mais elle dort bien, mange bien et elle est toujours de bonne humeur. Nous pouvons donc espérer que Dieu ne mettra pas de sitôt un terme à ses jours. Les Anglais ne peuvent pas se souffrir les uns les autres. C'est ce que nous voyons bien à la cour de Saint-Germain. Ils y vivent comme chien et chat. Je n'ai jamais entendu parler du philosophe Spinoza. Était-ce un Espagnol? Il me semble que ce nom est espagnol. Il est tout à fait faux que mon fils ait été mal reçu à l'armée. Il est devant Turin. Et je crains fort que le prince Eugène, qui s'avance vers lui, ne lui donne bien du mal. Je suis dans des angoisses à cet égard, et cette nouvelle qui est arrivée hier m'a réveillée plusieurs fois cette nuit. Versailles, 9 septembre 1706. Ma fille ne perd pas de temps pour avoir des enfants. Elle est mariée depuis 8 ans et la voici enceinte pour la 8e fois. Je suis extrêmement tracassée aujourd'hui, car je suis très inquiète au sujet de mon fils, qui est plongé par-dessus les oreilles dans ce siège de Turin, et qui se donne tellement de mouvements que c'est merveille s'il est encore en vie. Ensuite, je compte sur une lettre de ma tante et je n'en ai pas reçu. Marly, 4 novembre 1706. Plus on est dans une position élevée, plus on doit être poli afin de donner l'exemple aux autres. Il est impossible d'être plus poli que le roi. Mais ses enfants et ses petits-enfants ne le sont pas du tout. Si je pouvais avec convenance revenir en Allemagne, vous m'y verriez bientôt. J'aime beaucoup ce pays et je le trouve plus agréable que tout autre, parce qu'il y a moins de ce luxe dont je ne me soucie pas et plus de cette droiture et de cette franchise que je recherche. Mais, soit dit entre nous, on m'a mise ici contre mon gré. Il faut que j'y reste et que j'y meure. Il n'y a pas apparence que nous nous revoyons dans cette vie. Ce que nous deviendrons, Dieu seul le sait. Versailles, 23 décembre 1706. Tous les cocus devraient faire une pension au docteur piétiste en ce qu'il prie si fort contre l'adultère. Si chacun lui donnait un écu, il serait bientôt très riche. Mais il mérite d'être puni pour avoir écrit contre le roi de Prusse. Il y a aussi ici une espèce de piétiste, qu'on appelle quiétiste, mais ils valent mieux que les piétistes d'Allemagne. On ne dit pas qu'ils soient débauchés. Le dernier roi de Siam, lorsque notre roi le fit engager à se convertir au christianisme, répondit qu'il croyait que l'on pouvait être sauvé dans toutes les religions, et que Dieu, qui avait voulu que les feuilles des arbres ne fussent pas toutes exactement de la même couleur verte, voulait aussi être honoré de diverses manières, qu'ainsi le roi de France devait continuer de servir Dieu de la façon dont il avait l'habitude, tandis que lui, de son côté, adorerait Dieu à sa manière, et que si Dieu voulait qu'il en changeât, il lui en inspirerait la volonté. Je trouve que ce roi n'avait pas tort. Je pense qu'il y a encore bien du temps à s'écouler avant que le jugement dernier arrive. Nous n'avons pas encore vu l'Antéchrist. Avant qu'il vienne, j'aurai souvent l'occasion de vous assurer de mon tendre attachement. Versailles, 3 mars 1707. Je mange toute seule toute l'année, mais je me dépêche autant que possible, car rien n'est ennuyeux comme d'avoir autour de soi 20 valets qui regardent ce que vous vous mettez dans la bouche et qui comptent tous les morceaux que vous avalez. Je ne reste donc pas une demi-heure à table. Le soir, je soupe avec le roi. Nous sommes 5 ou 6 à table. Chacun s'observe comme dans un couvent, sans proférer une parole. Tout au plus, un couple de mots dit tout bas à son voisin. Ce qui nous rend si sérieux ici, c'est une foule d'intrigues dont on ne peut pas parler sans se faire des affaires. Par exemple, un fou s'imagine à Paris qu'il peut faire venir un ange dans une chambre. Mon fils veut s'amuser de ce fou. Il va le trouver et, entre autres impertinences, il lui demande combien de temps le roi a encore à vivre. Ceci peut vous faire juger du reste. J'aurais encore bien des choses à vous dire, mais il faut que je m'arrête, car il est 7h30 et j'ai encore 5 lettres à écrire. Et à 9h03, il faut que j'aille au concert.